Donc, on peut démarrer cette méditation par ramener toute notre attention dans notre corps. Les mouvements sont lents et conscients jusqu'à ce qu'on soit dans la posture. La colonne est droite sans être raide. Le menton peut être légèrement rentré. Si on ouvre les yeux, c'est comme si on regardait un peu vers le sol pour que la nuque soit dans l'alignement de la colonne. Et on peut détendre le visage. Relâcher les épaules. Laisser la respiration libre, le mouvement du bas-ventre souple. De nouveau, on peut se trouver le moyen en fait de rendre ce moment important, se rappeler tout ce qu'on a fait pour venir ici, de se rappeler la chance qu'on a d'être ici, tous ensemble, chacun d'entre nous. Qu'est-ce qu'on a senti? Quand on sent venir de loin quelque chose comme ça, quand on sent quelque chose qui monte, alors vraiment l'attitude, c'est de lâcher la tension qui a tendance à s'installer. Quelle que soit la chose qui monte. Je ne sais pas comment ça s'est passé pour vous. Pour moi, j'ai entendu l'avion arriver. Puis j'ai senti qu'il allait passer proche. J'ai senti une tension dans le corps qui montait, qui montait, qui montait. Et en même temps, je détendais, lâchais. Accepter, être présent, lâcher. J'ai senti le son dans mon corps. C'était tout bouleversé. Mais ce n'était pas un problème. Il y a quelques années, il y aurait eu un jugement et des histoires qui se seraient créées. Là, ce n'était plus le cas. Juste un événement qui passe fort, avec un gros impact, et en même temps rien du tout. On peut de nouveau regarder le corps, voir s'il ne reste aucune trace, aucune tension. Et sinon détendre. On peut amener toute notre attention à la sensation physique de la respiration. Je vais guider un regard différent sur la respiration. Donc, je vous enjoins à utiliser la respiration comme objet, à moins que ça soit vraiment compliqué pour vous. Alors vous pouvez utiliser les sensations physiques ou ce que vous voulez. Et je vais vraiment utiliser la respiration pour guider un regard différent. Et là, pour commencer, on fait vraiment l'effort nécessaire pour être présent à la respiration. Essayez de sentir tout l'inspire et tout l'expire. Essayez de repérer dès que des pensées se présentent pour ne pas vous y engager ou de vous dégager rapidement si vous voyez que vous avez été pris. Et restez bien avec la respiration. Essayez de voir le début de l'inspire et tout l'inspire, et la fin de l'inspire, et le début de l'expire et tout l'expire, et la fin de l'expire. Si ça vous aide, vous pouvez compter les respirations. Premier inspire, premier expire, deuxième inspire, deuxième expire. Et voir jusqu'où vous restez conscient. Et quand vous vous retrouvez dans des histoires, vous revenez à zéro. Le comptage est une pensée, mais c'est une pensée qui dirige notre attention sur la respiration. C'est une pensée qui peut nous être utile. Ce n'est pas une pensée qui nous distrait. Et en restant avec l'inspire et l'expire, ou en revenant à la respiration, on peut la regarder en se disant qu'en fait, c'est le corps qui respire. Ce n'est pas moi qui respire, c'est le corps. Il sait comment faire et il le fait tout seul. Et avoir cette sensation que j'observe le corps qui respire. À certains moments, on est distrait, ce qui est assez probable, qu'on part dans nos pensées. Quand on le remarque et qu'on revient, on peut remarquer qu'en fait, le corps est toujours en train de respirer, qu'il ne s'est pas arrêté. Et on le laisse faire, on le laisse respirer et on l'observe. Il respire comme ça depuis notre naissance. Et c'est pas souvent qu'on prend le temps de l'observer, de regarder cette respiration qui se fait. Il est peu probable qu'on arrive à un truc parfait. Notre esprit part de gauche et de droite. On revient aux instructions. Ah oui, voir le corps qui respire. Ok, on essaye. Ça donne ce que ça donne. C'est ça en fait, pratiquer. Essayer, y revenir. Ne vous laissez pas prendre dans les idées « je n'y arrive pas, c'est pas possible pour moi » ou « les autres y arrivent et pas moi ». Personne n'y arrive vraiment, peut-être à des moments un peu. en restant connecté à la respiration ou en revenant à la respiration. Sentir tout l'inspire, sentir tout l'expire. On peut se dire qu'en fait, ce qu'on observe, c'est le mouvement de la nature ou le mouvement de la vie elle-même qui se produit dans chaque corps ici présent en même temps sous cette tente. Comme le mouvement des vagues, le ressac, comme l'alternance de la lune et du soleil, du jour et de la nuit. Ce mouvement qui existe dans tous les animaux, les plantes, cette alternance, c'est la vie. C'est pas nous qui faisons cette respiration, elle est là. En observant le corps qui respire, on observe la vie qui respire. Mystérieux, insondable. Si vous n'êtes plus avec le corps qui respire, vous pouvez y revenir encore. Bien s'ancrer, sentir tout l'inspire, sentir tout l'expire. Et remarquez que quand on est conscient de l'inspire, quand on est conscient de l'expire, quand on est conscient du corps qui respire, il y a la sensation de la respiration et il y a la sensation d'être conscient. Il y a les deux. Je respire et je sais que je respire. Quand j'inspire, je sais que j'inspire. Et quand j'expire, je sais que j'expire. Pas besoin de mots. Pas besoin de dire j'inspire, j'expire, j'inspire, j'expire. On le sait. Parce qu'on est là. Il y a une sensation de présence. Et c'est cette présence qui est le témoin de l'inspire et de l'expire. Et cette présence, c'est moi. C'est ce que j'appelle je. Cette présence, c'est le grand mystère. Il n'y a rien à réfléchir, il y a tout à sentir. Sentir l'inspire dans tout son développement, sentir l'expire et sentir cette sensation d'être présent, non distrait. Il y avait vraiment un beau silence. Les yeux fermés, à un certain moment, j'aurais pu croire être tout seul. C'est impressionnant, hein, un groupe, tel groupe, complètement en silence, quelle belle qualité. Donc il y a un temps maintenant pour un retour d'expérience ou une éventuelle question. Vas-y, vas-y. Deux. Ok. Ah, c'est compliqué comme question. Parce que, non, 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 pas de souci. Mais ce qu'il y a, c'est que l'idéal, c'est de gérer tout ce qui est anxiété et stress et tout ça avant, dans son quotidien, pour que le jour où on soit dans des situations difficiles, et ça peut être une situation difficile d'être sur scène devant un jury, à ce moment-là, on est déjà appris à gérer ça. C'est pas le bon moment pour gérer ça. Et si on essaie de gérer ça dans le moment, alors ça prend toute notre attention et elle n'est plus disponible et suffisamment ouverte, elle est concentrée en fait sur l'anxiété, le stress et la gestion. Maintenant, en même temps, si dans le moment, pour ce musicien, l'anxiété et le stress montent, il va falloir, pour pouvoir être libre, il va falloir l'accepter. Sinon, elle va le prendre. Et donc, s'il a appris à accepter, à ce moment-là, il va pouvoir. Parce que pour un musicien, en fait, c'est normal d'avoir du stress avant de jouer. C'est même bon. Il y a eu des expériences qui ont été faites avec des pilules qui bloquent la zone du cerveau qui crée le stress pour les musiciens qui sont trop stressés. Et en fait, ils ne sentent plus le stress en venant sur scène, mais il n'y a plus la même profondeur dans la musique non plus. Donc le processus est nécessaire, mais c'est la relation au stress qui doit être différente. C'est normal d'avoir du stress, mais d'être relax avec le stress, de voir, le stress il vient de l'image qu'on a de nous-mêmes. Si on n'a plus l'image de nous-mêmes, il n'y a plus le stress. Ça c'est énorme. Il vient de l'image qu'on a de nous-mêmes. Et donc le musicien, il va voir son image qui vient et son ego qui a envie d'être aimé, apprécié, et comparé et mis sur un piédestal et tout ça. Cet ego-là, il vient jusqu'à la fin. Dans même Bouddha, qui est un peu une référence dans le domaine, disait, I see you, Mara, je te vois, Mara, je vois cette tentation d'être quelqu'un, d'être. Donc c'est normal pour le musicien que ça vienne, mais il va faire, ah, t'es là, une petite pointe de stress, un petit truc, et il va être cool avec ça. Et sinon, s'il n'est pas cool avec ça, alors vraiment, ça va prendre tout son monde. Et à ce moment-là, il ne va pas être ouvert à la musique. Merci. Pourquoi la musique techno? D'abord, c'est d'une rencontre avec Debbie. Qui a un passé dans la musique techno assez engagé et avec les spirales. Donc, beaucoup d'entre vous sont ici parce qu'ils ont connu les spirales à une époque. Et donc, c'est déjà de cette rencontre, c'est déjà une partie du pourquoi. Et dans cette rencontre, en fait, en discutant avec Debbie, moi je ne connaissais pas beaucoup la musique techno, mais c'est quand même dans une soirée techno que j'ai décidé de partir en Inde, à un moment de grande ouverture. Et en discutant avec Déby, je me suis rendu compte, je me suis rappelé de ce moment-là et je me suis rendu compte aussi que dans le mouvement techno, il y a une recherche de liberté. Même si la recherche ne se fait pas de la même manière que dans le bouddhisme ou la spiritualité en général, c'est pour certaines personnes, en fait, certaines personnes vont dans le mouvement des raves et de la techno parce qu'à l'intérieur, il y a un appel de quelque chose d'autre qui est le même, exactement le même que celui qui va en recherche spirituelle. Et donc, en fait, il y a une intersection là qui est forte. Et puis voilà, et il y a d'autres intersections comme la communauté, qui est très importante aussi dans la spiritualité, pour pouvoir, dans le bouddhisme par exemple, la Sangha, Bouddha Dharma Sangha, c'est un des trois piliers, c'est la communauté. Et dans le mouvement techno, la communauté, c'est très très important. Et puis, il y a aussi dans la musique, c'est une musique qui permet la transe, qui permet de rentrer dedans, comme c'est pas des morceaux de 3-4 minutes, comme il y a de l'improvisation, une connexion directe. Ça permet en fait de toucher à des états de conscience qui sont très intéressants, qui nous informent sur notre nature profonde quand la tête lâche complètement et qui nous fait vivre des expériences. Et si on comprend bien ces expériences, c'est une expérience spirituelle. Voilà pourquoi, comment en fait il y a moyen de tisser Dharma et techno ensemble. Voilà, ouais. Avec plaisir. La transe et l'état méditatif. En fait, le plus difficile dans la question, c'est de définir ce qu'est l'état méditatif. C'est ça, en fait, qui est très compliqué. Qu'est-ce que c'est un état méditatif? Il y a plein d'états méditatifs. En fait, quand on est concentré sur quelque chose, on devient cette chose. Si on se concentre pleinement sur une montagne, on ressent la sensation de la montagne. Sur une rivière, on ressent la sensation de la rivière. Sur un set de musique, on devient le set de musique. Sur le vol d'un oiseau, on devient l'oiseau. Si on est pleinement dedans. Donc ça, déjà, c'est un état dans lequel tous les états existent. Et on peut appeler ça un état méditatif, quelque part. C'est non mental. Peut-être on peut dire que c'est non mental. La transe, eh bien, va être un état méditatif dans le fait que le mental a lâché et du coup on fait l'expérience d'être autre chose que ce qu'on est d'habitude. Un autre état méditatif, l'autre famille, j'ai envie de dire, c'est celle qui n'est engagée en rien. C'est un état où on se sent peut-être aussi vaste que le ciel et les choses, comme le vol des oiseaux ou la musique ou les pensées ou les émotions, se produisent dans cet état. Mais on ne devient pas ni les émotions, ni la musique, ni ce qui passe. On se sent complètement indépendant de tout ce qui est perceptible. Ça aussi, c'est un état méditatif complètement différent. Les états méditatifs, je suis même incapable de décrire vraiment ce que c'est. Et donc, c'est difficile pour moi de répondre à cette question. Mais par contre, si on parle de recherche spirituelle, parce que la méditation, pour moi, fait partie des outils de recherche spirituelle, un moment de transe, comme je le disais hier, est un moment de contact profond de contact avec quelque chose en nous qui est très profond et très silencieux. Et que comme c'est silencieux, on ne le voit jamais. Juste notre simple présence vers laquelle je guidais tout à l'heure, c'est quelque chose qu'on ne remarque pas facilement parce que c'est tout le temps là. Et c'est tout de suite recouvert par quelque chose qui se passe. C'est pas quelque chose qui se passe, c'est juste là. C'est notre base, quelque part. Mais on a du mal à le reconnaître parce que notre attention est toujours attirée par ce qu'il y a un début, une durée et une fin. Pareil, un exemple qui me vient souvent, c'est si un grand ciel bleu et un nuage, notre attention sera attirée par le nuage, pas par l'immensité du ciel. Et c'est pareil pour notre nature, Dès qu'il se passe quelque chose, c'est ça qui va attirer l'attention. La conscience elle-même, la sensation d'être présent en soi, n'est pas quelque chose qui se passe, c'est juste là. C'est ça qui témoigne de ce qui se passe. Ça, c'est notre base. Et dans la transe, et dans bien d'autres moments, en fait, en général, quand on fait ce qu'on aime, quand on crée, dans les moments aussi de danger, quand il y a quelque chose qui s'arrête et on est en contact avec autre chose de nous-mêmes, un autre endroit de nous-mêmes. Et la transe est un de ces moments-là. Et ce qui va transformer, c'est ça que je disais hier, ce qui va transformer, ce n'est pas l'expérience de la transe, c'est ce qu'après, on remarque, on dit, mais tiens, mais qu'est-ce qui s'est passé là? Et en fait, ça nous dit quelque chose à propos vraiment de notre nature. Ça nous fait comprendre en fait qu'on n'est pas ce qu'on croit qu'on est. Parce que c'est ça en fait la base dans le bouddhisme et dans l'hindouisme, et la base de la souffrance, c'est une illusion de croire qu'on est quelque chose d'autre que ce qu'on est vraiment. Et on a des moments où si on les comprend, on peut voir en fait que, ah ben non, en fait, oui, mon identité, là, ce que j'appelle moi, est une construction. Plus ou moins fonctionnelle, nécessaire, on ne peut pas vivre sans cette construction. La construction de l'ego est très importante dans la psychologie occidentale, de l'identité, disons. Mais on n'a pas toujours besoin qu'elle soit là, cette identité. Mais nous, c'est comme si on ne voyait que l'identité, comme on ne voit que le nuage et on ne voit pas le grand ciel. Et un moment de transe, c'est un moment où on est en contact avec le grand ciel, mais il n'y a plus une division, il n'y a plus un « je suis en contact avec », on est juste dedans. Et donc c'est difficile de le repérer, c'est difficile de s'en rappeler après, et c'est difficile de comprendre ce que ça nous dit à propos de qui on est. Place pour une ou deux questions suivant. Oui. Ok, là, et puis. Oui. Vas-y.
Quand tu nous incites à nous concentrer sur la respiration, moi j'ai observé un peu plus ces jours-ci que ça passe par la reconstitution en ce qui concerne l'image mentale du corps.
Oui.
Et qui me semble faire obstacle au ressenti. Alors que
ok. Ouais.
Mais dans cette situation de méditation, en passant par l'image mentale, pour revenir au corps, en ce qui me concerne, j'ai l'impression qu'il y a un chemin qui est plus difficile. Et est-ce que tu considères que tout le monde passe par cette image mentale du corps pour ressentir la respiration, ou on peut accéder à la respiration sans passer par l'image mentale?
On peut accéder à la respiration sans passer par l'image mentale, et en même temps, l'image mentale est souvent utile. Parce que c'est intéressant parce qu'en fait c'est une division de l'attention. Il y a une partie de l'attention qui est sur l'image et une partie de l'attention qui est sur la respiration. Donc c'est pas 100% d'une façon continue sur la respiration, mais l'image nous pointe à la sensation. C'est pas comme si on essaie d'être avec la sensation et qu'on a des images d'autres choses qui nous distraient. C'est comme les instructions. D'ailleurs, les instructions sont des pensées. L'image est une pensée en fait, une pensée non verbale. Hein, on pense, il y a des gens qui pensent beaucoup par image plus que d'autres, et d'autres plus avec des mots. Mais c'est que ça soit des instructions ou une image. Il y a des gens souvent qui voient l'inspire qui monte et puis l'expire qui redescend, ou bien ça fait un peu un cercle comme ça. Parfois on l'utilise même dans le tai chi, d'imaginer en fait la respiration comme ça. Et tout ça, en soi, pour moi, ce n'est pas vraiment un problème. Parce que moi, ce qui me passionne, c'est celui qui observe tout ça. Et que ça soit juste la respiration ou la respiration et l'image, l'observateur, il n'est ni la respiration ni l'image qu'on s'en fait. Il est ce qui voit la respiration et ce qui voit l'image. Et donc, à partir du moment où il y a une absorption totale, ça fait une absorption en fait, mais dans deux objets. Deux objets, soit c'est très difficile de savoir, en fait je ne sais pas, si on va d'un à l'autre à la vitesse de la lumière, ou si l'attention est divisée et voit un peu ça et ça en même temps. Hein, mais en tout cas, Il y a une absorption dans le sens où ça reste autour de l'objet qu'on a choisi, la respiration, et il n'y a pas de distraction. Et pour moi, c'est suffisant, en fait. Ça n'a pas besoin d'être autrement que ça. Et du coup, comme tu as aussi l'expérience de l'absorption avec le bout de bois ou l'écriture spontanée, eh ben tu as aussi cette expérience du 100% dans un domaine. Et donc, c'est bien d'avoir différentes expériences.
La musique indienne et la psytrance, c'est un peu pareil ou différent? Est-ce que ça peut aider
Alors, je ne connais pas bien la psytrance, je ne vois pas trop en fait ce que c'est.
C'est proche, ça a été créé en Inde, enfin, c'est proche de la musique indienne dans les années 80, c'est proche de la musique techno.
Mm-hmm. Mmh. Ben, j'imagine si qu'est-ce qui fait la musique indienne, c'est une musique modale. Donc en fait, comme ça ne change pas de note, ça nous laisse un petit peu dans le même univers. Et c'est des morceaux très très longs qui permettent de vraiment rentrer dedans. Et c'est une musique qui a besoin d'être écoutée, comme ça elle absorbe notre attention. Et j'imagine que si la psytrance a un peu ces composantes-là, qui sont les composantes de base, alors oui, on peut dire que c'est pareil. Ça peut avoir la même fonction. Okay. Il y a encore place pour une question. Oui. Alors, je vais pas amener vers des choses de groupe, de communauté. Ça dépend. On verra. On parlera de bienveillance, par exemple, cet après-midi et dans la méditation aussi. Et du coup, ça inclut les autres personnes. Mais c'est pas comme si on faisait des exercices par deux ou par trois ou des choses comme ça. Parce qu'il y a ça aussi parfois en méditation. Je ne sais pas du coup si c'est à ça que tu réfères. Le groupe, alors non, on ne va pas faire une méditation qui implique tout le groupe sur un seul objet. Ça va rester. Ça peut être. Là, c'était très introspectif parce que vers l'intérieur du corps. Mais ça peut être une méditation avec les sons, du coup, qui. Quelque part nous ouvre sur l'extérieur, mais pas, on ne va pas faire une méditation genre où tous ensemble on fait quelque chose ensemble. Bien que, en fait, même ici, en méditant chacun d'une façon introspective, on crée une atmosphère où il y a quelque chose où on est tous ensemble. Alors, je ne sais pas si ça répond bien à ta question, mais ça ne va pas. Ok, d'accord. Ok. Peut-être on peut prendre juste une petite minute de silence avant de passer au mouvement. Et là, quand il n'y a qu'une minute, c'est là qu'il faut apprendre à être efficace. C'est vrai, hein? C'est ça qu'on doit apprendre, tout lâcher, tous les mots. Vous pouvez rester comme vous êtes, pas obligé de prendre la position, c'est juste une attitude intérieure. Hop, on lâche et on revient au silence et à la présence. Thank you.